Dutrisac. L'original. Dutrisac. Votre plaisir coupable.
Attends, Jean-François, mets de la musique. Ah non, on peut pas mettre de musique. Mets un extrait. Ah non, on peut pas mettre d'extrait. Attends une seconde. Je vais me débrancher, là, parce que Princesse Léa, ça y tente pas aujourd'hui. Puis en plus, je vois rien, sacramouille. La lumière est trop forte. Là, ça marche pas de même. Stéphanie, bonjour.
Salut, Benoît.
Comment ça va?
Tu commences ton printemps en feu.
C'est le mois de mars. Ah oui, ah bonjour, OK, on travaille, on est en onde sacrément. C'est quoi, c'est de travailler dans le désert, c'est ça le but, c'est...
Là, dans le fond, l'éclipse solaire, ça va être la plus belle journée de ta vie, là, parce qu'il va faire noir.
J'ai commandé des lunettes.
Oui, je les ai reçues,
mais là, je ne sais plus où je les ai mises. Oups. Mais ils sont quelque part dans la cuisine, sur le comptoir, ça doit traîner, j'en doute pas. mais demain, j'en parle. Comment ça que je suis seul?
Parce que moi, je suis de côté.
Ouais, non, c'est ça, mais j'ai vraiment...
Mais t'es la vedette sous les projecteurs.
Ah, c'est ça,
oui,
hein?
Oui, c'est ça.
OK. Puis la vedette se fait brûler les rétines, puis c'est correct. Bon, en tout cas, hey, midi et demi, midi 40, la grosse visite. Eric Allen Caldwell, le boss de la STM, sera avec nous. En plus, aujourd'hui, il y a plein de questions à poser sur la sécurité. Hein? On en a parlé. Mais aussi, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on parle de boîte pour récupérer les seringues.
Oui.
Parce que...
Projet pilote.
Parce qu'on se pique dans le métro. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a de la bataille entre les employés. Ça, c'est dans la presse. Il y en a qui sacent des volets, ils se battent. Puis c'est comme... ça va, le climat de travail toxique, peut-être. Fait que ça dure depuis 2019. Fait que si je suis capable de me rendre jusqu'à midi 40, sans devenir aveugle, on va faire l'entrevue. Attention, entrevue concept. Tu sais, nous autres, on fait de l'actualité, on regarde ce qui se passe, puis on revient là-dessus, puis on trouve des angles différemment. Là, c'est concept. J'avais une conversation avec une amie, puis on parlait d'avoir faim. Puis des fois, tu sais, il y en a qui résistent à la faim. Il y en a qui, c'est pas grave, ils passent par-dessus, ils attendent pour souper. Puis il y en a qui succombent facilement, surtout en soirée, quand tu regardes quelque chose à la télé, puis il y a des publicités de pizza, puis de peanuts, puis de cochonneries.
Le sac de chips est en train.
Ah, sacrament. Là, le lendemain, c'est comme si t'avais trompé ta femme. Tu te sens coupable. Je suis vraiment une...
Je vais aller au gym.
J'ai la volonté d'un hamster, ça se peut pas. Je suis pas capable. Alors, on a invité Dr. Julie Saint-Pierre, qui est lipidologue, il faut qu'elle m'explique c'est quoi, pédiatre spécialiste de l'obésité, maladie cardiovasculaire, ça c'est pratique, ça je les aime. Et auteur, Dr. Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, parce que ça a l'air d'un concept. D'ailleurs, l'obésité, c'est pas frivole, hein. Ça augmente, je disais, chez les enfants et les adolescents. En 1981, 2% des 6 à 17 ans au Québec étaient obèses. Puis, 30 ans plus tard, c'était 10%. Est-ce que je me trompe dans les chiffres?
Non, vous êtes pas mal près de la vérité, puis c'est une tendance là, qui ne va pas baisser.
Alors là, évidemment, on parle d'activité physique, on parle des écrans, tout ça, c'est bien beau, mais si tu manges pas, si tu te goinfes pas, il y a peu de répercussions à ces activités-là ou au manque d'activité. Alors, expliquez-moi une chose bien niaiseuse, puis j'étais en vacances, puis je me suis posé la question, c'est quoi la faim? Comment ça fonctionne quand on a faim? Sur quoi ça agit? Sur l'estomac, sur le corps, sur le cerveau? S'il vous plaît, des réponses.
Je dois dire que c'est une de mes spécialités. Le lipidologue, c'est spécialiste des lipides. En fait, je fais ça depuis un peu plus que 15 ans. Puis, dans le fond, ça me permet d'apprécier le cholestérol, savoir si c'est génétique ou si ça vient de votre alimentation. Ceci dit, revenons à la faim. La faim, en fait, c'est quelque chose qui est étudié depuis une bonne trentaine d'années. C'est quand même, on a de plus en plus d'évidence, très bien connu là, comment ça fonctionne, pas juste chez des rats, là, chez des humains également. On sait que la faim, elle est perçu au niveau de notre cerveau dans l'hypothalamus, qui est une zone du cerveau qui est quand même assez populaire, sollicitée entre autres aussi par les addictions et par d'autres comorbidités. Donc, il y a une molécule qui s'appelle la gréline. Et cette gréline-là, on a été capable d'isoler, de l'étudier chez des gens qui sont en santé, des gens qui souffrent d'obésité, des gens avec d'autres conditions, hein, des gens qui souffrent d'anorexie. Et on voit, c'est que quand l'estomac se vide, ben, l'estomac va sécréter cette molécule-là qui va aller aviser notre cerveau qu'on a faim. Une fois qu'on va commencer à manger, il y a une autre molécule qui est toujours en balance ou en pas parfaite balance avec cette molécule-là qui s'appelle la leptine, qui, elle, est sécrétée par nos cellules de gras. Et c'est cette balance entre la gréline et la leptine qui nous donne la sensation qu'on a faim quand la gréline est maximale. Et lorsque la leptine prend le relais, là, à ce moment-là, notre cerveau nous dit « Oh, attends un petit peu, arrête un peu, j'ai plus faim. » Mais là-dedans, il y a tout le timing, la durée du repas, le feedback. Comment? Faut voir ça comme une zone urbaine, en fait. Faut voir ça comme des chemins. Avant, on pensait que le cerveau communiquait pas avec les cellules graisseuses. La cellule graisseuse était snobée par le reste des organes du corps. Mais non, finalement, c'est un organe en soi qui est capable de communiquer avec le cerveau, de donner des ordres au cerveau. Et le cerveau, lui, va analyser et prendre action selon vos comportements. Puis ça va loin, hein? On sait que la leptine et la gréline, elles peuvent être influencées dans son développement, là. Tu sais, fait quand vous dites qu'il y a des gens qui ont pas la faim, moi, je suis comme vous, là, ça n'existe pas chez moi. Moi, j'ai même des accès de faim douloureux. Si mon cerveau perçoit que j'ai plus rien dans mon ventre, ça me fait mal. Alors que d'autres personnes qui vont dire, ben voyons donc, arrête là, tu sais, je veux dire, okay. Moi, quand j'ai pas faim, je suis capable d'attendre.
OK, donc il y a il y a une sensibilité face à ce message.
Comme la douleur, vous savez, okay. Il y a des femmes qui accouchent qui sentent rien, ou presque. Puis, il y a d'autres femmes comme moi qui ont besoin d'une épidurale quand il y a 3 cm de fête, puis c'est la fin du monde.
Ouais, moi aussi, ben, j'en ai demandé une aux accouchements. J'ai demandé une épidurale, mais vers le haut, parce que j'étais un peu troublé. Alors, c'est important. Donc, c'est presque du cas par cas, là, évidemment, la faim. Oui. Il y en a qui
quand
gèrent ça.
Quand on dit que l'obésité, c'est une maladie complexe. C'est qu'elle implique des gènes comme ça qui ont été peut-être programmés pendant la grossesse, qui ont peut-être été programmés pendant l'enfance, qui ont peut-être été affectés par une dépression, par des médicaments. Donc, tous ces facteurs-là vont venir influencer la sécrétion de vos hormones de faim et de satiété.
Okay.
Puis ça, ben, ça va avoir un impact sur le comportement alimentaire.
OK, ça, docteur Saint-Pierre, la gréline, là, je lisais que c'était une étude à l'Institut neurologique de Montréal. Est-ce que c'est nouveau là, comme apprentissage? Est-ce que c'est nouveau, la gréline? Où on savait que ça existait, mais on ne savait pas comment ça marchait?
Ben, ça fait, je vous dirais, une bonne dizaine d'années qu'on sait vraiment comment ça marche. C'est sûr que toute cette façon d'enseigner, tu sais, on enseigne à nos professionnels de la santé comment soigner les maladies. On leur enseigne pas nécessairement comme conseiller à la santé, ce qui fait pas de sens. Donc, quand on parle d'enseigner, faut changer les programmes puis être capable de nous enseigner comment ça marche. Mais nous, dans les cliniques spécialisées, comme à l'approche 180, on a ces connaissances-là accessibles avec les nutritionnistes, puis on enseigne ça de façon très vulgarisée. Vous avez vu, c'est pas dur à comprendre. On peut être bien, bien, bien fancy dans les études puis dans les recherches, mais c'est quand même assez simple. Fait qu'un patient, une personne qui sait ça, va trouver des mécanismes.
Mais là, excusez-moi, mais c'est parce que là, on est en plein ramadan, on est dans le jeûne intermittent. C'est tout le monde essaie de gérer sa faim, là, pour quelques raisons. Raisons religieuses, raisons de santé, raisons de poids.
Oui.
Et c'est un défi pour tout le monde. Alors, cette gréline-là, est-ce qu'on peut la mettre, est-ce qu'on peut l'ajuster en fonction d'une pilule? On peut gérer ça, la faim, autrement?
Bien, Absolument. Donc, c'est un peu ce qui arrive avec les nouvelles molécules comme Ozempic, Zepbound, Wegovy sur le marché. Ils ont un impact sur la ghrelin. Je reviens deux minutes au ramadan. Le ramadan, il est jamais bien fait là, chez la majorité des musulmans. C'est une façon de faire qui est très bien étudiée puis pour laquelle j'ai dû étudier pour conseiller mes patients qui pratiquent le ramadan. Donc, les gens, il y en a très peu qui se lèvent le matin, qui ont un déjeuner complet. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait souffrir vos cellules adipeuses, ça fait souffrir votre estomac, vous dérégulez vos molécules de la gréline et de la leptine, l'insuline comprend plus rien. À la fin de la journée, il y a des gens qui se gavent et qui prennent du poids pendant le ramadan. Donc, ça, je veux dire, pour nous, là, d'un point de vue scientifique, c'est un débat clos. Le ramadan, s'il est bien fait, par contre, peut avoir certains impacts bénéfiques à court terme, mais il demeure relativement hypocalorique dans la journée. Donc, quand on parle d'hypocalorique, on va pas chercher tout à fait les besoins d'un humain, femme ou homme, dans la journée. Il y a des impacts aussi de rattrapage le soir ou après le ramadan.
Ah oui. Donc, okay. C'est comme le jeûne intermittent. Si tu sautes le déjeuner, mais tu arrives au dîner, puis tu te ramasses chez McDo, puis tu fais deux commandes avec des grosses frites, puis ça aide pas, là.
Oui, on exagère un petit peu, là, mais c'est le principe. Là. Oui, les gens vont avoir des seconds services le soir, vont pas nécessairement comprendre pourquoi ils ont besoin de deux assiettes, vont manger plus vite, laisseront pas le temps à la leptine d'aller dire au cerveau « j'ai plus faim » parce qu'ils ont trop jeûné dans la journée. Okay. De toute façon, il sort à toutes les six mois une nouvelle étude sur le jeûne intermittent qui donne les effets aussi négatifs du jeûne intermittent. Fait que ça remplacera jamais une alimentation qui est équilibrée dans laquelle on se fait plaisir de temps en temps. Puis les gens qui mangent bien au déjeuner, qui prennent une collation le matin, qui mangent bien le midi, vont calmer cette faim-là. Ils vont réguler, vont apprendre à réguler en respectant les proportions de protéines, de grains entiers et de légumes ou de fruits dans l'assiette. Ils vont apprendre à réguler la sécrétion de leurs hormones.
Okay.
Mais il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'on fait souffrir notre corps, ben la ghrelinne, il y a quelque chose de super intéressant qui est connu aussi maintenant. Non seulement elle va commencer à se programmer pendant la période fœtale puis dans les premiers mois de vie selon le mode d'alimentation du bébé ou s'il est gavé, mais en plus de ça, on sait qu'à travers l'histoire, l'humain, il a souffert. Il y a eu des guerres, il y a eu des moments où est-ce qu'il y a eu de la famine, des peuples plus affectés que d'autres, et on sait que ça est devenu un phénomène aussi épigénétique. Donc, il y a eu des modifications qui se sont faites même dans ces gènes-là et qui sont transmis maintenant de génération en génération. Ce qui fait que notre corps, quand on le fait souffrir, il va encore plus récupérer qu'avant. Parce qu'il s'est adapté à la souffrance et que toute la sensibilité de ces molécules-là est devenue extrêmement fragile.
Attendez, notre corps est devenu « woke »?
Pas mal. Oh. Il y a des chances, ça va pas bien.
On est mal foutu, on est mal barré. Docteur Saint-Pierre, juste pour comprendre aussi, parce que mine de rien, j'ai lu une couple d'affaires là, avant qu'on se parle. L'alimentation homéostatique et l'alimentation hédonique. Là, j'ai compris, il y en a un, c'est pour le plaisir. Puis il y en a un, c'est pour c'est contrôlé par la ghrelinne dont vous parlez. Comment on peut balancer les deux? Parce que, tu sais, vous êtes le soir, on regarde la télé, publicité de pizza, publicité, là, tu te lèves, tu ouvres un sac de chips, le lendemain, tu dis, ah, merde, tu sais, j'ai trompé ma femme, je me sens comme une merde. Oui. Tu sais, c'est toujours pareil.
C'est drôle. Mais c'est vraiment comme ça que les gens se sentent. Hein? Il y a une espèce de culpabilisation épouvantable qui a été induite par la société, puis qui va te faire dire, ben va bouger pour te faire pardonner, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que oui, on arrive à ces concepts-là qui ont été mis en place, que tu sais, les nutritionnistes sont super bonnes pour vous accompagner là-dedans. C'est que tu ne vas pas te culpabiliser quand tu vas prendre cet aliment-là. Puis au contraire, si tu veux bien contrôler ta ghrelin puis ta leptine, quand tu te fais plaisir, ben la nutritionniste, elle va t'apprendre à ralentir le pace. Fait que, tu sais, ton sac de chips, peut-être qu'elle va te dire, ben, mets-toi-en une trentaine de croustilles dans un petit plat, puis prends le temps de les savourer parce que la leptine, en fait, elle est sécrétée en 20 minutes. Donc, si vous mangez votre sac de chips en 10 minutes, ben vous laissez pas le temps à la ghréline de dire, pas à la ghréline, mais à la leptine de dire à votre cerveau, j'en veux plus.
OK, c'est ça la référence aux 20 minutes là, dont on parle, puis on sait pas pourquoi, on sait pas comment, quand on mange notre repas, de prendre notre temps à cause de la leptine.
Exactement. Puis l'autre chose, c'est que certains de ces aliments-là ont stimulé le centre de votre plaisir. Hein? Une patate chip, tout le monde va me dire c'est salé, c'est du gras.
Arrêtez, j'ai faim.
Les gens oublient de dire que c'est du sucre. Hein? 25 croustilles, c'est 35 grammes de sucre libre. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va aller faire? Ça va aller jouer sur le centre de votre cerveau et ça va faire sécréter du plaisir via les récepteurs de la dopamine. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez en vouloir d'autres.
Okay,
donc, il y a des gens qui sont plus fragiles.
Docteur, il faut presque qu'on se quitte, là, mais vraiment, c'est fascinant ce que vous dites. Là, parce que pourquoi on est si susceptible, si fragile devant le sucre, le sel, le gras? Pourquoi on en veut tout le temps, même si on sait que c'est pas, même si ici on le sait que c'est pas bon?
C'est parce que le palais est très sensible et va aller stimuler l'hypothalamus aussi et va sécréter de la dopamine. Donc, quand vous allez vers les aliments de plaisir, le cerveau garde une trace de ça, il est content. Puis, il y a des gens chez qui, comme la cocaïne, on l'a vu avec Monsieur Martineau dans son entrevue qui vous précédait, il y a des gens qui vont devenir accros à ça, comme d'autres le seront pas. Il y a des gens que les récepteurs sont plus fragiles. Donc, que ce soit le sel, le gras, le sucre, votre cerveau, pour certaines personnes, est plus fragile à l'un de ces éléments, mais pour certaines personnes, c'est tous les éléments.
J'ai une collègue qui me disait, parfois j'ai faim, mais j'ai pas d'appétit. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire? Moi, je comprends pas, honnêtement. Là. Quand j'ai faim, j'ai faim. Là.
Ben, il y a des gens, oui, que pour des raisons, encore une fois, hypothalamiques, n'auront pas faim. Je veux dire, sont comme ça et doivent se forcer pour manger.
Ouais.
Puis ça, on le voit, c'est qu'ils ont certaines de ces molécules-là qui finissent par s'adapter. Hein, chez les gens qui souffrent d'anorexie sévère, le taux de ghréline reste élevé. Il y a comme un phénomène d'adaptation. Il veut plus partir. La ghréline reste pognée là. Pourtant, on se dit qu'il devrait avoir faim. Mais là, il y a de la résistance qui s'est faite au niveau des cellules adipeuses, au niveau de l'estomac, du cerveau. Donc, ça, c'est... De ce côté-là, on commence à peine à être capable de vraiment mettre des connaissances là applicables sur le terrain pour chaque personne. C'est une science qui on peut généraliser certaines choses, mais qui demeure encore très individuelle, d'où l'importance d'être toujours accompagné par des professionnels là-dedans.
Dernière question, Dr. Saint-Pierre, est-ce qu'on est prêt de comprendre et de contrôler l'obésité? Là, on ne veut pas entendre parler de grossophobie, tout ça. Là, on parle de la santé des gens. Est-ce qu'avec toutes ces études-là là, qui s'accumulent, la compréhension que vous avez là, de la faim, est-ce qu'on va arriver à contrôler l'obésité?
Oui, puis je ne sais pas si vous avez suivi un peu Oprah sur la chaîne américaine, mais oui, on est rendu là. Il y a certaines personnes qui ont absolument besoin de ces médicaments-là et finalement, ça fonctionne bien, puis on arrive à les balancer, mais tu sais, ils peuvent pas prendre ça puis pas voir le docteur puis l'équipe multiprofessionnelle là, entre, tu sais, un an, là, tu sais, il y en a que c'est, tiens, pars avec ta prescription puis tu reviendras l'année prochaine. Non, c'est vraiment des molécules qu'on doit suivre aux 4 à 6 semaines. On doit réajuster le type d'aliment qui est consommé. On va pas trop aller sur la faim. On va essayer de la réduire, mais pas trop non plus. Des fois, faut baisser la dose. Puis oui, on est rendu là, tu sais, Dans un monde idéal, le Québec choisirait d'avoir des équipes multiprofessionnelles à grandeur du Québec comme l'approche 180, mais malheureusement, le gouvernement actuel, Legault, ne fait pas ce choix-là, puis il refuse la médication. Donc, on est face à une population, à partir de maintenant, là, il y a vraiment une discrimination qui se fait sur la maladie de l'obésité. On lui donne pas des bons soins au Québec. On refuse d'écouter. Je sais pas qui ces gens-là écoutent, mais
de rembourser, parler de rembourser Ozempic et tous ces médicaments-là parce que l'obésité a un impact.
On n'aura pas le choix, ça va coûter plus cher dans 5 ans dans vos urgences. Ouais. N'oubliez pas, hein, 80 % des maladies chroniques origine de l'obésité.
Oui, les maladies cardiaques.
L'obésité. La France,
ouais. Les maladies cardiovasculaires, le cancer.
Les AVC,
ouais.
Cancer, 4 cancers sur 10 peuvent être prévenus.
À cause de l'obésité?
En traitant l'obésité.
Bon, ouais. Parfait.
Donc, vous voyez, on prend pas les bonnes décisions au Québec. Mmh. On se revire sur la dizaine pour un virus, mais on n'est pas capable pour une pandémie mondiale qui fait 5 millions de morts par année.
Bien envoyé, Dr. Saint-Pierre. Merci beaucoup. On va sûrement se reparler. C'est fascinant, hein, comment notre corps fonctionne encore aujourd'hui, là, d'essayer de comprendre.
Ah, écoutez, il y a 1000 molécules. Fait qu'invitez-moi toutes les semaines.
Parfait. Pendant 1000 semaines, c'est parfait. Merci.
C'est ça.
Dr. Saint-Pierre, qui est lipidologue et pédiatre spécialiste d'obésité et maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup. À la prochaine.
Au revoir.